Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée à l'histoire des Pères de l'Église que nous découvrons avec Jean Charmois. La semaine dernière, nous avons mieux compris tout ce qui s'était passé entre le concile d'Éphèse et... Depuis le concile d'Éphèse jusqu'au concile de Chalcédoine, ce fameux brigandage d'Éphèse. On va se pencher aujourd'hui sur le concile de Chalcédoine et ses conséquences.
À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Bonjour Jean.
Bonjour Amaury.
On se retrouve pour poursuivre avec vous cette histoire des conciles, ces premiers conciles œcuméniques, puis là jusqu'au concile de Chalcédoine en 451. La semaine dernière, on a vu combien il y avait eu de débats, notamment autour de la question de la nature unique ou double du Christ. Et finalement, c'est le concile de Chalcédoine, donc en 451, qui va fixer ce qui deviendra la doctrine orthodoxe et catholique sur ce sujet-là, entre autres.
Oui, alors c'est un concile très important, c'est un concile fondamental qui est notre foi commune hein, sur cette question, aussi bien catholique, orthodoxe et protestant. Mmh. Alors le concile s'ouvre à Chalcédoine, c'est dans les faubourgs de Constantinople, en octobre 451, dans l'église d'une martyre, Sainte Euphémie. C'est le plus nombreux de tous les anciens conciles œcuméniques. Il y a 343 évêques au départ, 630 à la fin. Et... comme 20 ans plus tôt à Éphèse, l'Occident n'est représenté que par les 6 légats de Rome et puis 2 évêques africains. Et 2 branches du christianisme n'y participent pas, l'église copte et l'église arménienne. Les églises orientales qui sont hors de l'Empire, l'église perse et assyrienne, dont on avait parlé déjà à propos de Théodore de Mopsueste, n'y sont pas conviées.
Juste, je fais une parenthèse, c'est pour ça qu'on dit par exemple à Marseille l'église arménienne apostolique qui est fortement représentée. On parle d'église pré-chalcédonienne, c'est parce qu'elles n'ont pas participé au concile de Chalcédoine.
Exactement. Et elles n'ont pas participé, elles ne l'ont pas reçu non plus. Alors, le concile commence par lire les actes du concile d'Éphèse de 449, le brigandage. Hein. Alors, tout le monde crie, tout le monde sait, personne n'accepte ce concile. Dioscore d'Alexandrie, est présent, se défend en disant « mais je ne défends pas les positions extrêmes de Tychès », mais il reste attaché aux formules de Cyril d'Alexandrie. Il dit « Jésus est composé de deux natures, mais il n'est pas deux natures, de peur d'établir deux Jésus-Christ ». Parce que c'est ça, son angoisse. Mmh. Les uns ne veulent pas dire le Christ est deux, et les autres ne veulent pas dire le Christ n'est pas un homme. Alors donc, s'il faut dire les deux en même temps. Mmh. Alors, c'est mon avis aujourd'hui, c'est qu'avec le recul, les querelles de vocabulaire nécessiteraient un réexamen de l'orthodoxie de Dioscore et de réviser un peu cette question de vocabulaire pour essayer d'être faire une réunion des églises. Il y a déjà eu des tentatives sur ce sujet-là entre les églises coptes, les églises syriennes et l'église orthodoxe et les églises catholiques aussi. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur ce sujet-là, mais ça n'a pas encore vraiment abouti. Alors le concile va déposer Dioscore de l'épiscopat et du sacerdoce et paradoxalement, pas du tout pour ses positions théologiques. L'évêque de Constantinople, Anatole, dit, devant tout le concile, « Dioscore n'a pas été déposé pour sa foi, mais parce qu'il a excommunié l'archevêque Léon de Rome et parce qu'il a été convoqué 3 fois et qu'il n'est pas venu. » Donc pour des raisons administratives, enfin canoniques, mais jamais pour sa foi. Donc bon. Et de l'autre côté du spectre théologique, Théodoret, le théologien de l'école d'Antioche, est pleinement réintégré comme évêque. Alors évidemment, comme il est pleinement réintégré, les Cyriliens, ces partisans de Cyril d'Alexandrie, vont dire ce concile, c'est un concile qui défend Nestorius. Donc chacun va s'accuser mutuellement des thèses extrêmes. Alors, là-dessus, on va lire le fameux tome à Flavien que Léon de Rome avait rédigé. Alors, Cette lecture, ce tome à la Flavien avait été refusé au conciliabule d'Éphèse, au brigandage d'Éphèse. Mais à Constantinople, il est lu et c'est un accueil très enthousiaste. Tout le monde se lève, tout le monde applaudit, et les évêques disent « c'est là la foi des pères, c'est la foi des apôtres, nous croyons tous ainsi, nous orthodoxes nous croyons ainsi, c'est Pierre qui par Léon a dit ces choses ». Donc une reconnaissance de caractère admirable du traité de Léon le Grand. Et ce texte, d'ailleurs, va rester dans l'Église latine, dans le prolongement de Tertullien et d'Augustin, qu'on a déjà vu dans d'autres émissions, une véritable synthèse de la christologie patristique latine. Et toute la théologie latine, que ça va être au Moyen-Âge, vont se pencher sur ce texte qui va être considéré comme fondamental.
Est-ce qu'on peut en citer peut-être quelques passages ?
Alors, voilà. C'est le même Fils unique éternel, engendré par un géniteur éternel, qui est né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Et cette nativité qui a eu lieu dans le temps n'a rien diminué, rien ajouté à la nativité divine et éternelle. Bien que ce soit le Saint-Esprit qui ait donné fécondité à la Vierge, néanmoins c'est un corps réel qui a été conçu de son corps. La sagesse s'est bâtie une maison, le Verbe est devenu chair, il a habité parmi nous. Ce qui veut dire dans cette chair qu'il a tirée de l'homme et qu'il a animée du souffle de la vie rationnelle. C'est dans la nature totale et parfaite d'un homme vrai qu'est né le vrai Dieu, complet dans ce qui lui est propre, complet dans ce qui nous est propre. En raison de cette unité de personnes qu'il faut reconnaître dans deux natures, tout à la fois on dit que le Fils de l'homme est descendu du ciel, et que le Fils de Dieu a assumé une chair tirée de la Vierge de laquelle il est né. Et à l'inverse, on dit que le Fils de Dieu est dit crucifié et enseveli, bien qu'il ait subi ces choses, non dans la divinité même par laquelle le Fils unique est coéternel et consubstantiel au Père, mais dans la faiblesse de la nature humaine. L'Église catholique vit et prospère par cette foi que dans notre Seigneur Jésus-Christ, l'humanité ne va pas sans la vraie divinité, et que la divinité ne va pas sans une vraie humanité.
On retrouve beaucoup d'éléments, effectivement, des formules du credo.
Tout à fait, tout à fait. Donc Léon est applaudi, Léon est considéré, il n'est pas présent, mais il est considéré comme le père du concile, en fait. Le concile va se mettre d'accord quand même sur quelques textes de référence, dont le tome à Flavien, de Léon. Et l'empereur va dire, il nous faut une définition de la foi. Les légats romains disent « Non, Léon a écrit, ça suffit. » Ben, toujours l'idée que Rome propose en tout cas son orthodoxie. Bon, bref, finalement, on crée une commission qui, comme vous voyez déjà à l'époque, on crée une commission qui va faire une définition christologique qui est une synthèse admirable, qui est le legs de ce concile de Chalcédoine. Je vais la lire. Suivant donc les saints pères, nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité. En tout, semblable à nous sauf le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour, le même, engendré pour nous et de notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne, une seule hypostase, un Christ, ne se fractionnant ni ne se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné, de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des pères, celui de Nicée, nous l'a transmis. Alors ce qui frappe dans cette formule, c'est son caractère en creux. On dirait aujourd'hui un mot un peu compliqué, apophatique, négatif. Les deux natures sont unies de manière négative, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Et ça c'est très important parce que c'est une approche qui préserve le mystère. Parce que le mystère est justement en creux. On croit que et par l'évangile et la foi, que le Christ unit l'humanité à la divinité. Mais le comment de cette union reste inaccessible à l'intelligence.
Il nous reste quelques minutes, Jean, peut-être pour évoquer quand même parmi tous les canons de ce concile de Chalcédoine, le 28e canon, qui est important aussi au-delà de cette définition que vous nous avez lue déjà, par rapport à même la vie de l'Église aujourd'hui.
Oui, le concile de Chalcédoine va promulguer un canon qui ne va pas être retenu, qui ne va pas être reçu par l'Église latine, et qui dit « Nous approuvons et prenons la même décision que celle du concile de Constantinople, au sujet de la préséance de la très sainte église de Constantinople, la Nouvelle Rome. Les pères, en effet, ont accordé avec raison au siège de l'ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville impériale. Mus par ce même motif, les 150 évêques aimés de Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de la Nouvelle Rome, pensant que la ville honorée de la présence de l'empereur et du sénat et jouissant des mêmes privilèges civils que Rome, l'ancienne ville impériale, devait aussi avoir le même rang supérieur qu'elle dans les affaires d'Église, tout en étant la seconde après elle. Alors, ce canon soulève plusieurs questions, malheureusement encore actuelles. Premièrement, il est question d'une préséance et non d'une primauté de juridiction, et donc le débat sur la primauté de l'évêque de Rome va être un débat entre orthodoxes et catholiques. Et puis la préséance entre les évêques est fondée sur l'importance politique de la ville et non sur son origine apostolique. Alors les évêques de Rome vont soutenir que si Rome a la primauté, c'est parce que c'est la ville de Pierre et donc que les évêques sont les successeurs de Pierre. Mais ce n'est pas ce que dit le canon 28 de Constantinople.
Et puis un sujet interne aussi qui touche les églises orthodoxes.
Ben oui, parce
sur la place de Constantinople.
Constantinople est la nouvelle ville impériale, et c'est pour ça qu'elle est mise en avant. Mais que signifie cette préséance puisqu'il n'y a plus d'empire? Donc ça ne peut plus être une ville impériale. Donc sujet de débat entre les églises orthodoxes.
En quelques secondes, peut-être pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette portée du concile de Chalcédoine? Il vient vraiment synthétiser, exprimer la foi de l'Église sur le sujet de l'incarnation.
Complètement, le pape Grégoire le Grand va dire il faut accueillir ces quatre conciles comme les quatre livres du Saint-Évangile. Sur eux, comme sur une pierre équarrie, se dresse la structure de la Sainte Voie. Mais Chalcédoine va une pierre d'achoppement aussi parce que le concile d'Éphèse avait provoqué une rupture avec les églises qui étaient en dehors de l'Empire romain, les églises perses et assyriennes. Mais là, Chalcédoine va créer une déchirure à l'intérieur de l'Empire. Tout le sud de l'Empire romain, l'Égypte, la Palestine, la Syrie, vont se séparer à la fois de Rome et de Constantinople. Et il y aura plusieurs tentatives de réunion qui vont pas aboutir jusqu'à ce que la conquête arabe fige complètement le christianisme oriental jusqu'à nos jours.
Merci Jean pour cet éclairage. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer plus en profondeur cette grande figure dont vous nous avez déjà parlé, Léon le Grand.